Donc là, on est en direct à Noranfont. Hein, aujourd'hui, c'est l'inauguration de la nouvelle jungle de Noranfont. Peut-être, donc on est avec Nan, qui est la présidente, hein, qui est présidente de Terre d'Errance. Alain Delame.
Oui, bonsoir.
Alain Delame, tu es...
Je suis coordinateur réfugiés migrants pour Amnesty International Nord-Pas-de-Calais.
Marc Boulnois, maire de Noranfont et président du réseau des élus hospitaliers.
Alors, Éric Muller, je suis encadrant sur le chantier de Noranfont, logisticien, on va dire.
Ah, et donc, aujourd'hui, c'est un jour tout à fait particulier, tout à fait exceptionnel. Et je suis vachement content d'être là maintenant, ici. Hein. Donc, le Jungle Tour nous a amené à l'inauguration de la jungle de Noranfont. Peut-être, tous les deux, vous pouvez nous raconter les histoires et toutes les pérégrinations de cette jungle depuis... Alors, et je tiens à dire que si on entend quand même de la musique en bruit de fond, c'est que c'est quand même la fête et on n'a pas demandé d'arrêter de faire de la musique pour enregistrer cette émission, donc en live et en direct.
Oui, ben alors, je ne vais pas recommencer sans doute par le tout début, c'est les associations calaisiennes qui épuisées de voir les migrants dormir dans le froid à Calais ont regardé les textes de loi et donc se sont mises ensemble pour interpeller l'État et le mettre devant ses obligations d'hébergement de quiconque d'ailleurs en cas de plan grand froid. Voilà, ça a commencé par ça, Marc. Ensuite,
sur l'histoire. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, on avait eu les réflexions avec vous. C'était sur les mises en demeure du préfet.
Voilà, c'était sur les mises en demeure du préfet et c'était dans une émission RESF. Mais peut-être, comme là, ça passe sur un autre canal. Nos auditeurs peuvent retrouver les émissions RESF sur le site resf.info/radio, mais ce serait pas mal d'en reparler maintenant et de reprendre les choses au début.
D'accord, alors tout le début ici à Noranfont, de l'histoire à Noranfont, des migrants qui viennent depuis maintenant plus de 5 ans sur... C'est bon, on continue, il y a du son, ça va. Alors, qui viennent ici sur la... sur Noranfont, proche de l'aire de service, une des dernières aires de service de l'autoroute A26.
Ouais.
Et donc ils viennent depuis 2006-2007. Il faut savoir que le camp de Sangatte, lui, avait fermé il y a 10 ans, en 2002. Et donc on a vu réapparaître du passage ici à Noranfont. Ce passage à Noranfont se faisait de façon très clandestine, où les gens étaient dans les fossés. Et lors de l'hiver 2006-2007, il y a eu une mobilisation de bénévoles qui ont essayé d'apporter des tentes, apporter un minimum de soutien et d'appui. Ce soutien et cet appui ont fait que des camps, de façon provisoire, se sont mis en place, mais qui étaient systématiquement détruits par les autorités, par le préfet. L'association Terre d'Errance, elle s'est créée en 2008, début 2008, pour essayer de structurer l'aide des bénévoles. Nous, on est arrivé à la mairie en 2008, mars 2008, et on a apporté l'appui et le soutien aussi à l'association. Et depuis 2008, il n'y a plus eu de destruction de campement. Avec l'État, on avait un accord tacite du fait d'avoir un campement très provisoire, où une trentaine d'Érythréens principalement pouvaient survivre dans des conditions un peu difficiles, en particulier l'hiver. Et donc la commune de Noranfont a ouvert sa salle, une des salles municipales, durant les hivers successifs, donc 2008, 2009, 2010, 2011, et on n'espère pas 2012, vu qu'on améliore petit à petit les conditions. Mais fin 2010, l'État a soutenu à Calais la demande de la maire de Calais d'accompagner financièrement l'hébergement hivernal. Et donc la commune de Noranfont, on a sollicité la même demande et le préfet a répondu par une mise en demeure du maire, que je suis, de détruire le campement pour des questions d'insalubrité, de troubles à l'ordre public. Il y a une forte mobilisation des bénévoles, des élus, janvier 2011, pour dire non à cette pratique, en sachant que sur le camp, il n'y avait plus personne. Tout le monde était à l'abri au sein d'une salle municipale. Donc c'était un peu le jeu d'autruche avec le préfet qui voulait détruire un camp vide, mais qui n'apportait pas de soutien, d'hébergement et d'appui. À la suite de ça, il y a eu un peu de dialogue avec l'État, mais qui n'a pas été très concluant. Et ça a amené à une deuxième mise en demeure, fin 2011, sur des questions de salubrité. Et il a mis en application cette mise en demeure en détruisant le camp le 29 janvier 2012, soit un an jour pour jour après la grande manifestation qui avait eu lieu pour dénoncer ces pratiques. Puis le préfet, lui, est parti voguer dans d'autres cieux en Normandie. Et nous, on s'est retrouvés donc avec l'hébergement assumé par la commune avec le soutien de Terre d'Errance dans une salle municipale et puis le campement qui était vide. Et donc la décision en lien avec Médecins du Monde a été prise de reconstruire un campement avec des normes plus humaines, des normes humanitaires. Donc c'est Médecins du Monde qui a donné l'appui logistique, qui a donné le cadre. Et donc au bout de 3 mois, 4 mois, on arrive à la construction du campement qui a été réalisé par des bénévoles avec une forte mobilisation. Et puis maintenant, les migrants qui sont aujourd'hui hébergés dans ces chalets.
Voilà, c'est tout à fait impressionnant. Peut-être tu peux en parler un petit peu de la construction du camp et du reste.
La construction du camp, ça a été un peu comme une forêt qui pousse. Une forêt qui pousse, ça fait plus de bruit qu'un arbre qui tombe, quoi.
Ouais.
Voilà. C'était un regroupement de plusieurs personnes. Il y a eu peut-être une cinquantaine de personnes du réseau Jungle qui sont venues participer au projet de la construction des chalets. Ouais. Et puis il y a aussi eu l'aide aussi des migrants après qui est arrivée. Il y avait un aspect technique qui était un peu compliqué au départ, qui était plus à faire avec des gens qui parlent ma langue, parce que Médecins du Monde était venu la première semaine pour donner les bases de la construction. Et puis après, ça a été le réseau Jungle qui est venu participer à la construction. Donc il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de sur comment faire les chalets, comment les monter, la construction. Ça a été quelque chose d'intéressant. Et puis beaucoup, c'est ça, c'est les échanges.
Voilà, parce que c'est vraiment impressionnant quand on arrive, quand on a vu donc comment c'était il y a un an, où c'était deux baraques en bois qui tenaient bien, qui étaient solides, mais qui tenaient. Et quand même préciser que là, ça ne s'entend pas, mais on est entre deux champs. Et donc ce sont 4 chalets qui sont au-dessus d'une espèce de fossé qui est entre deux champs, à côté de l'autoroute, quoi.
Ouais. Et puis maintenant, nous, on apporte juste l'aspect logistique maintenant. C'est-à-dire on apporte les méthodes de travail et puis on apporte le matériel. Et les migrants eux-mêmes finissent l'intérieur des chalets, continuent à travailler. On n'a même plus besoin de leur expliquer. On en a fait un avec eux. Ils ont vu l'intérieur, comment on faisait. Et c'est eux-mêmes maintenant qui prennent l'initiative de la construction intérieure des chalets.
Oui, et c'est un côté tout à fait... Enfin, il faut dire que les migrants qui passent, quand on appelle les migrants, c'est des gens qui, en général, ne restent pas, qui sont là de passage, et qui... Ce sont des gens qui sont là de passage et qui participent à la construction d'endroits où les gens qui passeront après vont habiter.
Oui, il y a beaucoup de migrants qui sont déjà venus... qui ont déjà participé à la construction des chalets et qui sont passés maintenant.
Ouais.
C'est les gens qui sont passés... Et il y en a de nouveaux qui arrivent, et puis hop, ils arrivent et ils travaillent, ils participent à la construction du chalet. Et il y a des passations, il y a des gens qui ont travaillé, il y a des migrants qui ont travaillé, et puis ils ont passé le savoir-faire. Et ceux qui arrivent, et bien, ils continuent à travailler, à employer les mêmes méthodes de travail, et puis à continuer. C'est des échanges en fait qui se font tout le temps.
Et ça, c'est quelque chose qui est très sympa. Peut-être, non, tu peux nous le décrire, ce campement, parce que enfin, ce campement, ces chalets, ces 4 chalets qui sont là.
Oui, au fait, alors après, je pense que quand même Eric est plus à même que moi de les décrire parce que c'est lui qui les a fabriqués de ses mains multiples du coup. Sont 4 chalets qui font quoi, 30 mètres carrés de surface à peu près, c'est ça?
Ouais, alors ça fait 4 mètres 80 sur 6. Ouais. Voilà, exactement.
Ouais, donc qui fait à peu près 25-30,
ça fait 25-30 mètres carrés, voilà.
Voilà. Et donc 25-30 mètres carrés chacun, donc tout à fait installé, des petits chalets qui sont tout à fait presque coquets.
Qui peuvent faire penser à des grands abris de jardin. On a même, Eric et les autres volontaires ont même rajouté des fenêtres et des volets. Ce qui ressemble à du luxe, qui peut faire ressembler à du luxe comparé aux autres camps surtout, mais qui ne l'est pas du tout au fait du luxe.
Non, c'est pas du luxe, hein, c'est un minimum. Bon, c'est un minimum. On verra bien. On sait pas comment ça va réagir cet hiver. C'est pas s'il y a des fortes températures qui vont baisser. C'est pas. Mais normalement, ça devrait pouvoir permettre de passer l'hiver sur le camp.
Ouais. Ok.
Bon, mais c'est pas c'est propre, c'est simple, mais c'est pas le grand luxe, c'est pas.
Non, c'est pas le grand luxe. Quand je disais que coquet, c'était avec un petit peu. C'est vrai que ça a un côté coquet, mais avec une certaine ironie, je dis ça quand même, ouais. Parce que on est quand même, et ça on y viendra tout à l'heure. Hein, si ce camp existe, c'est quand même pour des raisons qui sont tout à fait dramatiques. Donc c'est. L'idéal serait qu'il n'existe pas parce qu'il n'est pas à exister.
Non, il ne devrait pas exister. D'abord, si demain le problème se résoudrait, eh ben, on s'en servirait comme chalet de chemin de randonnée.
Voilà.
On ferait un arrêt pour chemin de randonnée. Voilà.
Gîte d'étape.
Voilà. Mais on apprendrait le chemin de randonnée des migrants.
Ce sont des gîtes d'étape, hein, sur une randonnée qui part de l'Érythrée et qui va à on ne sait pas très bien.
Bah oui, parce qu'il y en a qui me disent comme ça qu'après qu'ils sont en Angleterre, ils ont le projet de partir jusqu'au Canada, tu vois.
Voilà, c'est. Mais donc ce sont des gîtes d'étape.
C'est des gîtes d'étape.
Et quand on parlait tout à l'heure, hein, donc quand il y a eu les prises de parole de au moment de l'inauguration de la jungle, on parlait des coûts de la destruction. Et des coûts de la reconstruction. Non ?
C'est Nan qui parlait de ça.
Ouais.
C'est moi qui parlais de ça, c'est vrai. Au fait, qu'en janvier dernier, les services préfectoraux sont venus détruire le camp, ce qui a été très rapide. Hein, en deux heures de temps, c'était fait. La facture dont la mairie a eu connaissance ensuite s'élevait à 21 270,86 euros exactement. Oui.
Alors, dans cette facture-là, est-ce qu'étaient comptés les salaires journaliers des policiers et des gendarmes qui étaient venus ? Parce qu'ils étaient quand même, je crois, une bonne centaine pour un convivial.
Oui, on imagine. Enfin, on n'a pas demandé le détail de la facture, mais on peut imaginer qu'il, pour arriver à ce coût-là, qu'il ait à la fois mis tous les moyens privés dedans, donc les grues, les camions, etc., les mises en décharge. Et puis l'ensemble des coûts des forces de l'ordre qui étaient mobilisées. Ouais.
Qui étaient, je crois, une centaine.
Alors, moi, je n'ai pas pu accéder directement. On nous a bloqués en bas de la rue. Il y avait plusieurs barrages pour arriver ici. Et effectivement, moi, quand j'ai demandé, il y a des collègues qui sont passés lors du lieu de regroupement assez tôt dans la matinée. Ils ont demandé ce qui se passait parce qu'il y avait effectivement plusieurs dizaines, en tout cas, de forces de l'ordre mobilisées pour cette opération, pour détruire un camp qui était vide encore une fois, où il y avait personne en plein milieu des champs, où a priori personne n'était prévenu, donc à part la presse, vu que le préfet avait prévenu la presse. Mais voilà, c'était effectivement une mobilisation des forces de l'ordre importante.
Voilà, donc ce sont ce qu'on appelle des moyens proportionnés, hein, une réponse proportionnée.
Tout à fait.
Et après, donc il y a eu ces chalets quand même, hein, ils ont un coût, parce qu'il y a eu donc beaucoup de travail, ça on en a parlé. Mais
oui. Alors c'est ça aussi qui est incroyable, parce que ça a coûté 21 000 euros pour la destruction, et nous pour 12 000 euros, on les reconstruit encore mieux.
Voilà, hein, c'est voilà. Donc
c'est quand même. Alors que cet argent, s'il avait été mieux employé, quand même.
Alors, c'est un point important qu'on aborde là sur l'aspect économique des migrations. On a toujours le réflexe de dire que ça coûte. Ça coûte à la société, ça coûte... nous, on a regardé ici, sur la commune, quel était le rapport économique de la présence des migrants. Et quand on sait qu'ils utilisent directement ou indirectement l'ensemble des services de la commune, les commerces, qu'ils vont acheter leur alimentation, qu'ils participent pour leurs besoins de consommation, les cigarettes, l'alcool, etc. Comme tout citoyen en rencontre, on estime la présence des migrants à un apport net en termes de à près de 40 000 euros pour la commune par an. Donc ça apporte des financements, ça fait vivre aussi notre économie locale.
Voilà, bah c'est une chose qui est très importante, très très importante à dire aussi. Hein, c'est, ouais. Peut-être revenir parler de la question donc droit de l'homme et réfugié, parce que quand on dit migrant, ça c'est toujours c'est quand même un problème, c'est que la situation des gens qui sont des habitants des jungles ou des gens qui passent dans les jungles est quelque chose qui a été tellement peu pensé, tellement mal pensé qu'on n'a pas de mots précis pour le dire. On va dire migrant, on va dire réfugié, on va dire exilé, on va dire personne déracinée. Donc ce sont tous des gens qui sont, ce sont principalement pas tous des gens qui sont de passage. Est-ce que tu peux nous en parler un peu mieux, Alain?
Oui, bon, d'abord on est aussi ici à la troisième étape du Jungle Tour, c'est la troisième année qu'un certain nombre d'associations qui sont à la fois des associations généralistes comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme et les associations de terrain d'adhérence ici par exemple, ou Fraternité Migrants avec qui on était à Méricourt et à Angres ces jours derniers, ce Jungle Tour qui justement essaye de faire du lien entre les grandes questions liées à l'exil, à l'asile, au droit d'asile des exilés et à l'obligation d'asile qui est celle des États et aussi des populations des pays par lesquels ils passent. Donc c'était très bien que cette troisième étape du troisième Jungle Tour s'arrête le jour de l'inauguration de ce lieu. C'est pas une jungle d'ailleurs. Hein, alors là aussi il faudrait savoir quel terme on utilise.
Ouais, c'est
les
vrai.
Gîtes d'étape, moi j'aime bien le gîte d'étape. Je trouve que Renan et Marc ont trouvé gîte d'étape une excellente formule qu'il faudra retenir et utiliser par la suite. Mais en effet, bon, pourquoi est-ce qu'il faut créer des gîtes d'étape? Parce que les droits de ces exilés ne sont pas respectés par les États par lesquels ils passent, que ce soit la Grèce, que ce soit l'Italie, mais aussi ici la France, à l'horizon de la Grande-Bretagne, voire du Canada, pour ceux qui prennent la Grande-Bretagne pour une sorte de tremplin pour aller plus loin. Mm-hmm. Or, ces droits doivent être respectés, absolument respectés. Et cette année, cette initiative, ce Jungle Tour s'inscrit aussi dans le cadre d'une campagne que mène Amnesty International sur la base d'un rapport intitulé « Réfugiés, un scandale planétaire », parce que, par exemple, 80% des réfugiés, des personnes qui peuvent être qualifiées de réfugiés par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, 80% se trouvent non pas ici, entre Calais et Nord-en-Fonte, mais se trouvent, par exemple, au Pakistan, en Iran, dans les pays d'Afrique. Le plus grand pays d'accueil de réfugiés, c'est le Pakistan. C'est pas la France, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Italie, c'est pas la Grèce.
Et je crois, voilà, de mémoire, après le Pakistan viennent l'Iran et la Jordanie.
Après le Pakistan viennent l'Iran et la Jordanie, absolument. Tu as une très bonne mémoire. Voilà. Donc on remet, on essaye aussi de faire réfléchir les gens sur le ici et là-bas. Hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là-bas, avec des témoignages, etc., qui sont malheureusement singulièrement semblables quand on prend des témoignages de réfugiés au Pakistan, en Inde, en Iran, ou bien de personnes qui sont passées par Calais ou par des centres de rétention ici en France. Donc d'où les 10 recommandations que formule Amnesty International en conclusion de ce rapport sur la dignité des réfugiés et des demandeurs d'asile, sur l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile, et je crois que sur la dignité et l'accueil et le respect des droits, eh ben on est en plein dedans ici. Voilà.
Absolument. Et puis quand on dit de droits, il ne s'agit pas de lubies de droits de l'hommiste, mais il s'agit de choses qui sont très précises. C'est la Convention de Genève de 1951, un certain nombre de textes qui imposent qui donne un certain nombre de droits aux migrants et qui impose des obligations aux États qui ont signé ces textes.
Alors, il s'agit effectivement de la Convention de Genève de 1961 qui régit le statut de réfugié politique au plan international. Il y a aussi les conventions relatives aux droits de l'homme des Nations Unies, la Convention européenne des droits de l'homme, sur par exemple le droit à la vie familiale, ça en fait partie, même si ce n'est pas forcément ce qui nous concerne ici même. Il y a aussi une convention que la France n'a pas ratifiée sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, qui dit des tas de choses très intéressantes, qui protège très bien ces droits. La France ne l'a pas ratifiée. Il faudrait peut-être qu'on se demande si maintenant, le nouveau gouvernement, par exemple, va s'orienter vers cette ratification. Et il y a beaucoup de travail à faire, bien sûr.
Voilà, il y a beaucoup de travail. Et donc, parmi ces choses qui sont... Donc, quelqu'un, un réfugié, donc, quand il entre dans un État qui a signé cette... Donc, n'a pas présenté ses papiers, n'a pas justifié de la façon dont il est arrivé et doit être pris en charge tant que sa demande d'asile est étudiée.
Alors, s'il fait la démarche de demander l'asile, il doit être hébergé, où on doit lui fournir les moyens de se loger. En tout cas, c'est le dispositif national d'asile en vigueur en France. Il doit être hébergé. Il doit jouir d'un certain nombre de droits civiques, comme tout un chacun. Or, évidemment, c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. C'est surtout pas le cas à Calais, où des gens qui sont en possession de récépissés de demande d'asile errent dans les rues, y compris d'ailleurs des gens qui sont reconnus réfugiés statutaires.
Voilà, donc ça c'est quand même...
Donc la protection, il y a un déficit de protection total de la part de l'État français et il faut qu'on continue de d'œuvrer dans ce sens-là. Alors les initiatives d'associations d'élus hospitaliers, comme ici, c'est super. Moi, je suis très content d'être là, bien sûr. Comme tu le disais tout à l'heure, il ne faudrait pas que ça existe.
C'est ça, c'est des réponses.
Il faudrait qu'on puisse venir coucher une nuit en allant se balader, de l'autre côté.
Voilà, ça je voulais en venir. Et peut-être un petit mot, mais ça on en a déjà pas mal parlé, pas tout de suite, mais sur Dublin 2. Donc il fait qu'il y a des gens avec les accords de Dublin 2 qui imposent de demander l'asile dans le pays par lequel on est entré en Europe. Donc si on a des empreintes qui sont prises, on a des gens qui se sont transformés en véritables boules de billard.
Oui, alors là on touche à une dimension qui est une dimension européenne. Il est bien évident qu'on ne peut pas s'en sortir en ayant simplement des raisonnements franco-français. Alors dimension européenne pour deux raisons. La première, c'est que la Grande-Bretagne se sent toujours dans et hors de l'Europe et n'ayant pas ratifié les accords de Schengen, eh bien... Il y a contrôle à la frontière quand on passe en Grande-Bretagne. C'est vrai pour les migrants, mais c'est vrai pour toi et moi aussi. Si on prend l'autocar Eurolines, on est contrôlé deux fois dans deux endroits différents. La police française contrôle, on te fait remonter dans le car qui fait 100 mètres, on te fait redescendre, on est contrôlé par les Britanniques. Bon. Donc ça, c'est un premier aspect. Effectivement, tant que la Grande-Bretagne aura cette position d'être à la fois dedans et dehors de l'Europe, on ne s'en sortira pas. Les accords de Dublin 2, alors auxquels, là, pour le coup, la Grande-Bretagne, effectivement, adhère et qu'elle applique, c'est effectivement... Il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, ce qu'on appelait les réfugiés en orbite, c'est-à-dire des gens qui, effectivement, tentaient de demander l'asile, un coup en Italie, puis après, ça ne marchait pas en Italie, ils allaient en Allemagne, puis après, ils venaient en France ou en Belgique, et ils avaient fait trois ou quatre demandes d'asile. l'Europe a décidé que, eh bien, il fallait qu'il y ait un seul pays qui soit responsable de l'examen de la demande d'asile. D'un point de vue rationnel, ça se comprend. Mais on a décidé que c'était le premier pays d'entrée. Alors, le premier pays d'entrée, maintenant, c'est quoi ? C'est la Grèce, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est rarement la France, sauf pour les arrivées aériennes, mais je ne crois pas que les gens qui sont ici autour de nous soient vraiment arrivés par avion ou en parachute dans le ciel de Laurent Fonte. Et par conséquent, leurs empreintes digitales étant prises ou censées être prises dans ces premiers pays, et quand on pense à la Grèce, par exemple, qui a 0, je ne sais plus combien pour cent de taux de reconnaissance d'asile,
oui, ça se compte en dizaines.
Et dont la situation économique et sociale, bon, on ne va pas revenir dessus, on la connaît très bien, il est strictement inhumain d'envisager de renvoyer des gens dans des situations telles. Donc il faudrait aussi réviser, reprendre les accords du Dublin 2 et par exemple, imaginer que le premier pays de demande d'asile soit un pays choisi. On parle d'immigration choisie et subie. Choisi par qui, subi par qui.
Absolument. Voilà. Marc ?
Des explications là-dessus. Pourquoi le choix de l'Union européenne de renvoyer dans le premier pays d'arrivée ? C'est pour aussi forcer les pays d'arrivée à jouer la frontière, à jouer véritablement la frontière. Parce que, de fait, si tous les migrants qui arrivent en Italie ou en Grèce devaient demander l'asile dans ces pays-là, ça poserait des problèmes à l'Italie et à la Grèce. Et donc on force les pays, par ce travers-là, à organiser et à renforcer leur contrôle aux frontières. C'est rien que ce mécanisme-là détourné, qui aujourd'hui oblige tous les pays frontaliers du sud de l'Europe à organiser leur contrôle aux frontières un peu mieux que si on était dans un système comme le préconise préconise Alain, où on choisit son pays d'accueil. Forcément, l'Italie, la Grèce et tous les pays frontaliers ne chercheraient pas forcément à renforcer leur contrôle parce qu'ils savent très bien que les demandes d'asile se feront plutôt en Angleterre, en France, en Allemagne, etc.
Non.
Et ben oui, mais justement, tout ce dont on parle là, ça a des conséquences dingues dont on se rend compte, nous, ici. Des personnes qu'on voit passer, repasser, repasser les années passant. Aussi, n'est-ce pas ?
C'est poétique, poétique.
Mais en fait, des personnes qui, une première fois, parce que ici à Terre d'Errance, on fait aussi de l'information sur le droit d'asile. Et donc ces personnes-là décident, passent le pas et disent bon bah ok d'accord, j'essaie de m'arrêter en France, je fais une demande d'asile. C'est très très long parce que justement à cause du Dublin 2, il faut attendre. Enfin voilà, les démarches sont très très longues. Savoir que pendant ce temps, et ben du coup les personnes sont souvent hébergées par des bénévoles, ce qui peut aussi créer des difficultés pour les uns et les autres, et surtout des difficultés psychologiques parce que la personne, le demandeur d'asile attend. Il n'a rien à faire de ses journées, il attend juste. Et au bout d'un moment, très souvent, ce qui se passe, au fait, c'est que la personne se lasse et se dit mais qu'est-ce que j'attends ? Quand on a 24 ans, enfin, il faut juste se mettre à la place des personnes, quoi. Quand on a entre 20 et 30 ans, on a la vie devant soi, on a plein de projets en tête. Et on passe des journées à ne rien faire et à dépendre d'une personne qui est bénévole d'une association et qui fait tout ce qu'elle peut pour. Et voilà, du coup, très souvent, ce qui arrive, c'est que les demandeurs d'asile, donc qui tombent sous ce règlement Dublin, en fait, au bout d'un moment, laissent tomber et décident quand même d'aller ailleurs. Sauf qu'ici, ils ont déjà une procédure en cours et des fois, parfois, dans un autre pays. Et du coup, bon, ils arrivent ou ils n'arrivent pas après. Enfin, au bout d'un moment, très souvent, de toute façon, tout le monde passe. Au bout d'un moment, tout le monde passe. Ça prend plus ou moins de temps, mais tout le monde passe en Angleterre. Donc, ils arrivent en Angleterre. Ils y restent un jour, un mois, deux mois, un an, deux ans, parfois. Au bout d'un moment, ils se font attraper d'une manière ou une autre par les forces de l'ordre qui prennent leurs empreintes et qui les renvoient. Et qui les renvoie souvent en Italie. Et du coup, ces personnes-là remontent et on les retrouve ici, dans le camp, juste un petit peu plus abîmés par la vie, juste un petit peu plus déçus, juste un petit peu plus désespérés. Et on se rend compte, nous, qu'on a des... Enfin, voilà, l'alcool commence à faire ses effets. Et c'est pas étonnant.
Tout à fait logique. Hein.
Ouais, par rapport à ça, le chantier. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gars, de migrants, ça leur a fait du bien.
Ouais.
C'est cette construction de chalets. Pour certains, j'ai bien vu les changements qui se sont déroulés. Une activité, un but. Ça, c'est un truc... Dans le genre humain, on voit que ça leur fait du bien, quoi. Et puis ils sont contents de faire quelque chose de leur journée, tout ça. Au lieu d'attendre toute la journée à rien faire, pour essayer de passer. Ça aussi, c'est quelque chose de d'intéressant. Enfin, c'était intéressant aussi, ce truc-là.
Absolument, c'est clair, quoi. Et il y avait une chose aussi, Marc, dont on a parlé un mot, et dont tu es à l'initiative, c'est les élus accueillants ou les maires accueillants. Une fois, on en avait parlé sur une autre émission et j'avais fait là-dessus, j'avais parlé des maires hospitaliers.
Oui, alors, donc l'association qui est maintenant créée s'appelle bien les réseaux des élus hospitaliers. Donc, c'est né de la mobilisation des élus lors de la première mise en demeure du préfet. Donc les élus se sont mobilisés, l'association des maires du Pas-de-Calais, des conseillers régionaux, des parlementaires, ont appelé au préfet de lever cette injonction et à venir à ouvrir une table ronde entre les élus, les collectivités locales et l'État. Et donc on a confirmé cette intention en créant le réseau, l'association du réseau des élus hospitaliers, et qui a pour objectif tout simple d'appuyer à la fois les maires qui sont isolés sur l'accueil, sur la question de l'accueil, apporter un soutien. Donc on va recevoir un financement du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais pour créer un fonds d'investissement. Donc il va permettre de porter des expériences comme ici à Noranfonte de chalets, de lieux d'accueil plus dignes et plus humains. Et puis l'autre objectif, c'est être en relation avec les autorités pour créer les conditions de l'accueil et de la solidarité et de l'hospitalité.
Alors, ça, est-ce que c'est donc cette association, ce réseau, c'est propre au Nord-Pas-de-Calais ou on peut imaginer des choses puisque le phénomène donc, est très concentré dans le Nord-Pas-de-Calais en France, mais on le retrouve quelque part, Paris peut être considéré comme une banlieue du Nord-Pas-de-Calais à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on peut en parler à des maires parisiens ou de la banlieue où il y a où on retrouve des phénomènes qui sont... Bon, c'est vrai que les campements, que les jungles, que les bidonvilles ne sont pas entre deux champs, mais...
Ils sont entre deux tours ou entre deux friches industrielles. Hein, donc,
voilà,
c'est moins agréable qu'ici, parfois. bien sûr, non. Donc, l'initiative, elle a été prise du Nord-Pas-de-Calais. Dès le départ, il y a eu des élus nationaux et même européens, enfin, qui ont des mandats européens, qui ont appuyé la mise en place et l'appel. Je pense à Michel Destos à Lyon, je pense à José Bové au niveau européen, Eva Joly, etc. Donc pour l'instant, voilà, la base est dans le Nord-Pas-de-Calais. On travaille sur les situations à la fois des migrants et des Roms dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais rien n'empêche que d'autres élus nous rejoignent et créent des antennes partout en France pour à la fois... gérer et appuyer des situations locales, mais aussi porter un message à un niveau, un message politique à un niveau national.
Voilà, et ça c'est tout à fait, pour moi, tout à fait intéressant. Bon, vous m'arrêtez si je dis des conneries, mais ça montre finalement une espèce de schizophrénie d'un fonctionnement où on a un État qui empêche de faire un certain nombre de choses et des élus locaux, des élus qui... qui prennent des responsabilités, qui prennent leurs responsabilités pour faire.
Oui, alors c'est vrai sur les questions migratoires, c'est vrai sur plein d'autres questions hein, où les initiatives locales font bien souvent bouger les politiques nationales ou internationales. Hein. On vient de finir le Rio plus 20 sur les questions environnementales. C'est clair qu'aujourd'hui, on attend plein de choses à un niveau international, mais c'est les initiatives locales qui font avancer les choses. Sur les questions migratoires, c'est bien les élus locaux qui doivent répondre à leur population et doivent répondre aux exilés et trouver des réponses qu'ils essaient d'inventer. Là où il faut qu'on arrive maintenant, c'est à faire bouger l'État et l'Europe pour donner une inflexion aux politiques qui, depuis 30 ans, ont été des politiques de stigmatisation, de fermeture des frontières, de mise à l'index des étrangers, et d'autant plus durant la dernière période politique qu'on a vécue en France sous l'ère Sarkozy, avec une montée du Front National et des extrêmes droites en Europe, il va falloir aujourd'hui que des élus prennent leurs responsabilités sur le message politique, sur les questions migratoires.
Ah, absolument. C'est... Peut-être quelque chose à rajouter ?
Ben, peut-être, oui, sur le rôle des citoyens. Les élus sont là pour nous. Ils nous représentent. À nous aussi d'aller les voir, de leur dire ce qu'on pense, de leur demander de se positionner là-dessus. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec nous, mais au moins d'avoir des discussions sur ces sujets-là notamment, et enfin sur tous les sujets même. Et voilà, de leur demander de se positionner. Et une fois qu'ils se sont positionnés, une fois qu'ils se sont exprimés, de s'engager dans ce sens-là. Parce que c'est très bien, c'est très très bien de dire ah bah oui madame, votez pour moi, je vous soutiens, etc. Mais voilà, après on attend des actes et alors il faut aussi là que je parle d'une interpellation commune à 10 des associations qui viennent en aide aux migrants notamment. Il y avait la CIMAD aussi. Et il y avait une association ici en Cherbourg, sinon la plupart des associations sont ici basées dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc ces associations ont interpellé alors d'abord les candidats à la présidentielle, puis après les candidats aux législatives, et ont la ferme intention, nous ne l'avons pas encore fait mais on va le faire, de toutes les personnes, tous les élus, alors qu'ils soient élus ou pas, hein, mais tous les candidats qui nous ont répondu plus ou moins positivement d'ailleurs, mais qui allaient dans un sens quand même, avec lequel on pouvait discuter au moins, nous allons leur demander de se rapprocher de l'association du réseau des élus hospitaliers, et puis de s'engager simplement.
De s'engager. Et il y a une chose moi qui me surprend. Oui, Alain.
Oui, je voudrais aussi dire que on est quand même dans la solidarité. On a vu, comment le maire de Noirmoutier a été menacé par le préfet du Pas-de-Calais il y a quelque temps. Je pense que un des objectifs, mais qui peut être réalisé à court terme, c'est l'abrogation du fameux article L622. Du code d'entrée et de séjour et du droit des étrangers et du droit d'asile qui stigmatise, qui punit les personnes qui aident les aidants. Hein, et on avait quelqu'un avec nous tout à l'heure qui est Annie Coupé de Angres qui a été placée en garde à vue pour ces motifs-là. Il y a pas mal d'exemples, même si ça ne va pas toujours jusqu'à des peines prononcées par des tribunaux ou parfois jusqu'à un procès avec dispense de peine, il faut absolument que cette action de solidarité ne soit plus pénalisée, criminalisée par la loi française. Donc il y a eu un projet de loi qui s'est appelé Amendement Welcome, présenté par Daniel Goldberg, député de Paris, il y a 3 ans, qui évidemment n'a pas abouti, bien sûr, dans le Parlement il y a 3 ans. Il y a une nouvelle proposition de loi qui va dans le même sens, qui a été déposée au Sénat il y a une dizaine de jours, qui amende cet article L622. Bon, peut-être qu'il faudrait aller plus loin et dissocier complètement l'aide à titre bénévole et non lucratif de ce qu'on appelle l'activité des passeurs, etc., qui, elle, par ailleurs, peut être réprimée par le code pénal au titre du trafic d'êtres humains. En tout cas, si l'article L622 est modifié, au moins modifié, amendé, dans le sens de la proposition de Daniel Goldberg il y a 3 ans, dans le sens de la proposition qui a été déposée au Sénat, ça sera déjà un premier pas en avant, parce qu'il n'est pas question que les gens qui justement font le travail de l'État d'une certaine façon, se substitue à l'État, soit en plus
pénalisé
ou risque une pénalisation, c'est absolument pas tolérable. Ça sera déjà un premier signe aussi qu'on peut se faire entendre. Voilà.
Alors, là, il y a deux choses. Enfin, une chose, peut-être, on en reparlera quand on sera à Calais, puisque Valls, Emmanuel Valls est venu à Calais. Mais il y a eu, c'était vendredi dernier, une rencontre avec le préfet à Arras. Je ne sais pas si vous étiez à cette rencontre. Donc, non, si tu peux nous en dire un petit mot. Et ensuite, j'ai des grosses inquiétudes dont je te ferai part par rapport à ce que j'ai entendu.
Que dire ? alors, nous n'avons pas rencontré le préfet, nous avons rencontré sa directrice de cabinet, qui nous a entendus, et dont on ne sait pas bien ce qu'elle fera de ses paroles. Elle va sans doute les reporter. Au fait, bon, les discussions sont portées vraiment sur deux choses. D'abord sur les violences policières faites à Calais, ce que visiblement et contre toute attente, la directrice du cabinet du préfet ignorait. Elle ignorait qu'il y avait des violences policières. Elle ignorait qu'il y avait des violences policières à Calais. Elle nous a demandé de la prévenir et notamment interpellant les sous-préfets. Notamment le sous-préfet de Calais, parce que ces violences policières se concentrent surtout sur le Calaisis, au fait. Donc, en prévenant le sous-préfet de Calais à chaque fois qu'il y avait une violence policière, ce que nous ne manquerons pas de faire.
Alors, moi, ça me pose cette réponse me pose une question avec deux réponses. Je ne vois pas quelles peuvent être les deux réponses. Soit la police agit sur ordre. Si la police agit sur ordre, elle agit sur ordre du procureur ou de la préfecture. Soit la police n'agit pas sur ordre. Si la police n'agit pas sur ordre, ça veut dire que la police agit de façon autonome et n'est pas contrôlée par l'État.
Là-dessus, sur la question des violences policières, on ne peut pas être dans un état de droit et accepter, quelles que soient nos positions, qu'on soit préfet, ministre, citoyen ou élu, la violation des droits individuels et des libertés individuelles dans une démocratie. Donc je pense que vous trouverez aucune personne qui, aujourd'hui, ait appuyé quoi que ce soit. Je pense qu'il faut bien aussi prendre conscience dans le contexte où on est actuellement que depuis 10 ans, on oblige les policiers à intervenir, à déloger et à considérer les migrants comme des délinquants. Et donc, même sans donner d'ordre, ça crée une culture, ça crée une ambiance. Quand vous êtes stationné à Calais dans une compagnie de CRS et que vous attendez à longueur de journée, que le soir ou le matin très tôt, on vous dit qu'il faut aller déloger les migrants, et je ne pense pas qu'on emploie le mot migrant, forcément, ça crée des animosités, ça crée une ambiance. Et donc, on a des pratiques individuelles, des pratiques de groupe qui font que, sans ordre, on crée une ambiance et un rapport à l'autre qui est totalement dégradé. Donc maintenant, ce qu'on attend de l'État, c'est qu'il affirme, c'est qu'il donne des ordres très concrets à la police, à ses compagnies de CRS, sur le respect des droits et des libertés des individus qu'ils peuvent contrôler, qu'ils peuvent même parfois arrêter, mais dans le respect des droits individuels. Et c'est là-dessus où on a connu à plusieurs reprises, on l'a connu ici sur le camp tout au début, où on a dû demander aux parlementaires d'intervenir auprès du préfet pour qu'il rappelle les règles élémentaires de déontologie auprès des fonctionnaires de police.
Oui, alors sur les questions des violences policières, deux remarques. D'abord, le défenseur des droits, M. Baudis, a été saisi l'an dernier. D'abord par l'association, le mouvement No Border de Calais, mais également à la suite de témoignages que des membres d'Amnesty International avaient recueillis lors de notre étape de Calais du Jungle Tour il y a un an. Il doit rendre là-dessus un avis ou un rapport dans les jours qui viennent, donc on l'attend avec impatience, parce que l'accueil des services de M. Baudis a été tout à fait favorable. Le deuxième point, C'est que les compagnies CRS dont parle Marc Boulnois sont des compagnies délocalisées, si je puis dire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des policiers du CRU, du Calaisis ou du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont des gens qu'on envoie comme ça en mission. Alors à quel prix, il faudrait aussi le chiffrer. Qui sont loin de chez eux, qui sont dans une, tu disais, une culture, oui, entre eux, entre soi, et lâchés dans ce genre de contexte. Ce ne sont pas du tout, c'est pas du tout de la police de proximité ou quoi que ce soit du même genre. Et je pense que ça y contribue. Hein, ils se relayent, ils passent quelques mois, quelques semaines à Calais, dans un milieu, dans un endroit qu'ils ne connaissent absolument pas. Après, ils retournent chez eux. Tant qu'ils sont là, ils sont logés entre eux, ils sont enfermés entre eux. Et ça doit contribuer, je pense, au phénomène que Marc Boulnois vient de décrire.
Non, on va être surpris parce qu'on allège la tonalité de la discussion avec quelques boissons fermentées qui arrivent autour de la salle.
Bah, on est dans le Nord, hein, quand même.
On est dans le Nord.
Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'était une émission qui était enregistrée en live et en direct depuis la jungle de Noronfontaine. On ne l'espérait pas. C'était
Alors, ce n'est plus la jungle.
La jungle.
C'est plus la jungle. Les gîtes d'étape de Noronfontaine.
Les gîtes d'étape de
Noronfontaine. Bienvenue à Noronfontaine.
Les gîtes d'étape.
Ouais. Gîtes d'étape. Hein. Eh bien, merci.
Merci,
merci beaucoup, Marc.
Merci.
Merci, Nan.
Merci beaucoup.
Merci, Alain.
Viens te serrer la main si tu veux.
Voilà. Non, dis merci au micro.
Mais ça s'entend pas.
Merci
là.
Au micro.
Merci Eric.
Merci et au revoir.
Merci, au revoir. Alors.
Et puis merci à la logistique, au groupe électrogène qui nous permet d'avoir les moyens techniques d'enregistrer.
Voilà, parce que normalement, il n'y a pas l'électricité.
Il y a des éoliennes qui en produisent très près. Mais...
Oui, non.
Et merci Christophe à la technique. Hein.